Extrait du journal de Léon Delarbre, 1940-1941. 1940. Reçu ce jour, 10 avril, en don de M. René Münch, une épreuve, d'une gravure sur bois de sa main. Kaisersberg, maison gothique. M. Münch, mobilisé comme lieutenant-commissaire à la gare de Belfort et professeur à l'école Estienne à Paris. Numéro E387. Le 10 mai au matin, premier bombardement par les avions allemands sur Val-d'Oise et Sermamagny. À partir de ce jour, Belfort vit dans des alertes continuelles. Je termine les emballages et j'adresse une nouvelle demande d'instruction par l'entremise de M. Bercier à M. Billet au ministère des Beaux-Arts. Le 14 juin au matin, je reçois la lettre ci-dessous de la préfecture de Belfort. Préfecture du territoire de Belfort, Belfort, le 13 juin 1940, première division, deuxième bureau. Monsieur le conservateur, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir vous présenter à mon bureau dès que possible au sujet de l'expédition des œuvres d'art de Belfort dont vous avez bien voulu m'entretenir récemment. Veuillez agréer, monsieur le conservateur, l'assurance de ma considération distinguée. Le chef de division, signé Marshall. Je me rends immédiatement à cette convocation et monsieur Marshall me donne connaissance du télégramme suivant dont il me remet la copie. Télégramme. Ministre Beaux-Arts à Préfet Belfort. Prière donnée instruction à conservateur pour expédition œuvre d'art Belfort sur château La Bastille d'Urfé par Saint-Étienne de Mollard, Loire. Annoncé départ à direction Musée National. Pour copie conforme, pour le préfet, le chef de division délégué, signé Marshall. Je vais trouver M. Metzger, premier adjoint faisant fonction de maire, qui convoque immédiatement les services intéressés, messieurs Leguet et Marais. Mais les camions de la ville viennent d'être réquisitionnés par l'autorité militaire. On réussit cependant à se mettre d'accord avec monsieur Ennis, transporteur, qui possède plusieurs camions. Il peut mettre à ma disposition un camion Renault. Le camion n'étant ni assez puissant ni assez rapide pour transporter dans la Loire les œuvres qui sont au musée et celles que je trouve déjà à Autrey-les-Grès et que je désire évacuer en même temps, conformément à des instructions reçues antérieurement, il est décidé que je ferai un premier voyage jusqu'à Autrey, où je déposerai les collections du deuxième envoi, et que je reviendrai à Belfort pour attendre un camion capable de faire le voyage de la Loire. Le samedi 15 juin à 6h du matin, il pleut à verse. Belfort a été bombardé par avion la veille au soir. Je trouve devant le musée non pas le camion Renault promis, celui-ci a été réquisitionné entre-temps par l'autorité militaire, mais un vieux 3 tonnes, âgé de 20 ans au moins, sans couverture et sans bâche. Le conducteur, un jeune homme de 17 ans, le jeune Ennis, dont j'ai apprécié par la suite l'endurance et le courage. Trois hommes, fournis par la ville, étaient là également pour la manutention des caisses énormes et lourdes. J'envoie le camion au magasin de la ville pour chercher une bâche. Il n'y en a pas. Nous prenons finalement des tentes des marchés. Comme il faut chaque fois une demi-heure pour mettre le moteur en route, nous prenons la route à 10h seulement. Le camion atteint péniblement 30 km à l'heure en terrain plat. Les descentes doivent être faites doucement, faute de freins suffisants. Nous n'arrivons de ce fait qu'à 16h, aux environs de Grès, où nous tombons dans un enchevêtrement inouï de camions et de voitures civiles ou militaires qui font demi-tour, car les Allemands sont à Grès. Il nous faut une demi-heure pour tourner, et nous reprenons la route de Belfort dans la cohue. On nous dit en cours de route, à tort ou à raison, que le passage à Vesoul est coupé. Je décide alors de me diriger sur Besançon et par Dole, d'essayer d'atteindre la Saône, et Loire, Alray, où se trouve ma famille, et où existe un château susceptible de recevoir provisoirement les collections. Nous avons une panne d'une heure au croisement de la route qui va vers Recologne. Nous prenons là en remorque une jeune femme en uniforme de l'UFF qui est en panne d'essence. Nous voyageons jusqu'à la nuit tombée. En ce moment, nous devons refaire le plein d'essence, car les arrêts innombrables qui nous ont imposés nous font consommer environ 80 litres au 100 km. Il nous reste un bidon de 50 litres que nous transvasons à l'aide de deux bidons de 2 litres, nos seuls récipients. Nous passons à Dole vers 10 heures du soir et nous roulons une partie de la nuit par des chemins détournés avec des arrêts incessants. Au loin, l'incendie du dépôt d'essence de Saint-Jean-de-l'Aune illumine le ciel. Le conducteur est exténué et on n'y voit plus goutte. Je décide de nous arrêter en attendant le petit jour. Après 2 heures de repos, vers 3 heures, nous nous remettons en route. Cela va mieux. L'encombrement est toujours extrême, mais on voit clair. À 6 heures du matin, nous retrouvons la grande route qui va de Dole à Dijon. et nous nous apercevons que le chemin parcouru dans la nuit représente 17 km sur la grande route. Vers 8 heures du matin, nous avons notre première panne d'essence à l'entrée de Seur. Nous cherchons en vain du carburant dans cette bourgade. Je trouve finalement un automobiliste complaisant qui veut bien m'en céder 5 litres. Nous repartons de Seur environ un quart d'heure avant que cette localité ne soit bombardée par avions et sérieusement touchée. Nous faisons environ 8 km et nous sommes de nouveau en panne d'essence en race campagne. Nous perdons une heure en vaine recherche. Finalement, un automobiliste belfortin veut bien m'en céder 2 litres. Nous nous remettons en route et 2 ou 3 km plus loin, nous sommes de nouveau arrêtés. Il nous reste à ce moment environ 12 km à faire pour atteindre Alray. Je décide de partir jusqu'à Verdun sur le Doubs où j'espère trouver du carburant. Une automobiliste complaisante veut bien me prendre sur son marchepied pour me faire faire les 8 km qui me séparent de cette ville. À Verdun, on me dit qu'il ne me reste pas un verre d'essence dans la localité. Après de vaines démarches, je trouve enfin une formation sanitaire arrêtée. Je m'adresse au médecin-chef, qui consent à me céder 5 litres d'essence que j'emporte dans 2 petits bidons et une bouteille de bière. Je refais les 8 km qui me séparent du camion, moitié à pied, moitié sur une bicyclette empruntée à un cultivateur. Ces derniers 5 litres nous permettent d'arriver à Alray en début de l'après-midi. Nous avons besoin de nous laver et de manger car nous n'avons rien pris depuis la veille au soir. Pendant que le chauffeur et les 2 hommes qui nous accompagnent se reposent, je me rends au château. Mais le propriétaire, le comte de Mestre, a quitté le pays la veille. Je ne trouve que le valet de chambre, qui veut bien mettre une remise à ma disposition. Je me rends chez le maire pour lui signaler la présence de nos collections, et sur ses indications, je me rends au bourg voisin, à Gervie, conduit par le boucher du pays. Le dépôt militaire d'essence qui s'y trouve doit être incendié le soir même, et il est possible d'y trouver du carburant. J'en obtiens 100 litres. En revenant, je me demande si je ne dois pas essayer d'atteindre Saint-Étienne-de-Molard, mais ce voyage n'ayant pas été prévu, je ne sais où se trouve exactement cette localité. Je n'ai pas de carte, et je ne connais pas le kilométrage. D'autre part, j'ai avec moi 3 hommes qui sont comme moi partis pour la journée sans argent, sans linge de rechange. Les routes sont de plus en plus encombrées, et on me dit que le passage à Chalon-sur-Saône est devenu problématique. Le camion n'a presque plus de frein. Bref, je décide de renvoyer le camion à Belfort et d'attendre les événements à Alray. Après une nuit de repos, les 3 hommes repartent le lundi matin pour Belfort. Le mardi 18 à 7h, les Allemands arrivent à Alray et occupent immédiatement le château. Je suis très inquiet pour les œuvres d'art du musée. Le 20, le valet du château m'avertit que les Allemands ont forcé la porte de la remise et commencent à ouvrir les caisses. Je me rends immédiatement chez le commandant qui est absent, et son secrétaire, sur mes instances, charge une sentinelle postée non loin de la remise de veiller sur les collections. Le lendemain matin, je vais voir le commandant, et lui dit de bien vouloir faire respecter les biens français. Entre-temps, d'autres caisses ont été ouvertes et bousculées. Il me conseille de prendre les collections près de moi. Une heure après, aidé par M. Morin, propriétaire de la ferme où j'habite, par le valet de chambre et le jardinier du château, nous transportons les caisses dans une grange de la ferme Morin. Quelques jours après le départ des réfugiés luxembourgeois, ayant libéré un petit local au sol cimenté, bien couvert et fermant à clé, j'y transporte les collections du musée, ainsi que 3 caisses de livres et de collections appartenant à la société d'émulation, le tout indemne. Par la suite, j'ai vérifié le contenu de certaines caisses qui ont été mouillées au départ, ainsi que la collection de Bourgogne appartenant à la société d'émulation, et j'ai pris toutes dispositions utiles pour éviter les moisissures ou la rouille. Le lundi 5 août, je reviens à Belfort n'ayant reçu aucune nouvelle de la ville. Je trouve le musée occupé en partie par des ménages de réfugiés alsaciens et belfortins. Les Allemands ont enlevé 4 peintures du musée. Japy, Louis M, Paysage, A54, et Vincent Gustave, La Seine Grise, A61. Baumann, Alphonse, Halte de Chasse, numéro A12, Jument et Poulain, numéro A127. Ces 3 toiles ont été transportées au grand hôtel du Tonneau d'Or pour décorer la salle à manger. Je me mets d'accord avec M. le maire, Messieurs Leguet et Marais, pour faire transporter à Alray les 6 caisses qui ont été déposées à Autrey-les-Grès en septembre 1939. Un camion de la ville transportant à Dijon du suif qu'il échangea contre du savon fera un crochet par Alray. Le 11 août, je retourne à Alray, muni d'une série de fiches, dans le but de dresser l'inventaire détaillé de la collection des monnaies d'Alsace qui me sera amenée d'Autrey. Le 12 ou le 13 août, les Allemands demandent 2 autres peintures pour décorer la salle à manger de la maison Georges Blum, 20 Faubourg de Paris. Les services de la mairie leur ont livré numéro A148 Bourlange Gilbert, nature morte, et Bénière Paul, nature morte. Le 9 janvier 1941, les services de la ville ont ramené au maire les tableaux que les Allemands avaient demandés pour décorer une salle à l'hôtel du Tonneau d'Or, soit Japy, numéro A54, Massan, numéro A61, 6, Baumann, A, numéro A12, numéro A127. Le cadre de la peinture de Massan a été détérioré. Le 23 septembre, appelé à Belfort par mon service à l'école pratique, je quittais Ray pour après avoir transporté toutes les caisses appartenant au musée et à la société d'émulation dans le logement occupé par ma famille. Ma femme reste à Alray pour assurer la surveillance des collections. Le 22 décembre, muni de papiers nécessaires pour ramener les collections et ma famille, je retourne à Alray pour m'occuper du déménagement. Celui-ci a lieu le 31 décembre. Il est effectué par les maisons Benoît de Beaune et Elminger de Belfort. Le cadre prévu pour emmener les collections et mon ménage étant trop petit, on est obligé de mettre une partie des collections, les caisses dans un wagon. La coiffeuse et les gravures sont cependant emballées dans le cadre. Nous quittons Alray le 1er janvier. Le climat hivernal de cette région étant très humide, il y aura lieu de vérifier dès leur arrivée à Belfort l'état de certains objets, notamment des pastels, de la collection de Tello et de la collection de Bourgogne, qui appartient à la société d'émulation. 1941. Les collections du musée de Belfort évacuées à Alray, Saône-et-Loire, le 15 juin 1940, dont l'expédition avait été faite le 2 janvier de Beaune, Côte d'Or, pour Belfort, sont arrivées le 27 janvier. Elles ont été transportées au musée par les soins de la maison Elminger le 28 janvier.